L'ultra foutage de gueule.
Une sale gaucher.
Oui, peut-être.
Je suis un rebelle officiel.
Vous êtes à côté, madame Blanc. On ne peut pas dire que vous cassez les gueules.
C'est fantastique.
C'est de la merde.
C'est énorme.
Comme ma bite.
Stop. L'humour a ses limites.
Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais dire un gros merci aux récents donateurs sur ma cagnotte Litchi. Abeille de France, Michel Rigal, Général Pangolin, Ismaël Hachi Arnoux le poète, Clepsydre, Disque Mystère, Guillaume Wanhou, Joël Auré, James Turner, Crépuscule, Lionel Sabin, VDS Carty, João de Oliveira do Brasil, Julien Entre Sangles, Pragmatique et enfin Génération Sankara. Bref, merci à tous, ça me touche beaucoup et ça m'encourage à continuer à vous offrir du contenu, j'espère, de qualité. J'encourage tous ceux qui l'ont pas encore fait à les imiter et à me donner de la force à leur tour. Des piou-piou à tous et maintenant, votre vidéo. Je pense que ce mec va plaire à l'ami Génération Sankara. C'est un influenceur qui s'inscrit dans la mouvance complotiste révisionniste afrocentriste. Pour faire simple, c'est un mec qui prétend que les historiens, les linguistes et les archéologues officiels mentent délibérément pour dissimuler la vérité sur l'origine africaine de tout ce qui est européen, les langues, les religions, la philosophie, etc. Je vous propose de décrypter quelques-unes de ces vidéos, car pas de bol pour lui, Internet existe.
Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de savoir que le galop, c'est du breton.
Première connerie, le galop, c'est du breton. Non, en fait. Le breton est une langue celtique apportée par les populations de Grande-Bretagne au cours du Haut Moyen-Âge et parlée dans la Basse-Bretagne, la partie ouest. Le galop est une langue romane. C'est une langue d'oïl, comme le normand ou le poitevin. Il est issu de l'évolution du latin dans la partie est de la Bretagne, la Haute-Bretagne. Comme ces deux langues ont été en contact pendant des siècles, chacune a emprunté à l'autre. L'influence a été réciproque, mais non, ce ne sont pas les mêmes langues.
Mais est-ce que vous saviez que le breton c'est du Wolof? Et ça je l'ai su à partir d'un article de Sud-Ouest, où ce musicien breton a entendu en fait un musicien sénégalais chanter en Wolof, il a dit mais je comprends pas, je comprends tout. Vous commencez à comprendre la supercherie? Et comment ils ont fait pour nous diviser? Donc quand je vous dis Sénégalia, vous comprenez mieux.
Ah ouais, le breton c'est du Wolof.
Il y a des familles qui parlent pas le français, alors ils parlent Sopel Poula, Wolof. Alors moi je les apprenais à parler en français.
Voyons ça et allons jeter un œil à l'article de West France sur lequel il s'appuie. L'article est intitulé « Si on comprend le breton, on comprend le Wolof ».
Le Wolof.
Dès le chapeau de l'article, il y a un indice. Le griot sénégalais Ali Boulo Santo Sissoko et le chanteur breton Cyril Panven parlent la même langue, celle du cœur.
J'ai envie de pleurer.
Je cite. « Je comprends votre langue. Le breton est ma langue maternelle et le Wolof, que je n'ai pas appris, me fait vibrer de la même façon. » Et oui, la voilà l'arnaque. L'article ne traite absolument pas de linguistique. Il parle de ressenti et d'émotion. Charles Galia, tu es un menteur.
Tu mens.
Avec son Sénégalia, il cherche juste une sonorité commune pour relier artificiellement le breton qu'il croit être la même chose que le galop et le wolof. Sauf que le mot breton gal est apparu bien avant l'époque des premières incursions européennes en Afrique. Quant à l'origine du nom Sénégal, il n'existe pas de consensus absolu sur son origine, mais l'hypothèse la plus solide est que ce nom viendrait des Zénégas, une puissante confédération de tribus berbères qui dominait la région au moment des premiers contacts avec les navigateurs européens. L'explication populaire selon laquelle Sénégal signifierait « notre pirogue » en Wolof, Sounougal, est très célèbre, mais largement contestée par les spécialistes depuis les années 60.
Et pour terminer, il faut savoir que le pasteur Mello nous a dit quoi? C'est un grand chercheur à l'UNESCO, dans les langues. Il a découvert, parce qu'il parle Kikongo, qu'en fait, le latin, c'est du bantou. Ce sont les mêmes racines. Regardez, vous pouvez acheter son livre. Donc quand je vous dis que le galop, c'est du breton, que le breton, c'est du wolof, que le Kikongo, c'est du latin...
Et mon cul, c'est du poulet?
Ensuite, il évoque un certain pasteur Mello, chercheur à l'UNESCO, qui aurait découvert que le latin, c'est du bantou.
Ce gars n'est que des couilleries, voilà.
Il parle de Mello Nzeitu Josias, et peut-être bien que ce dernier est pasteur, mais ce qui est certain, c'est qu'il n'est ni chercheur ni linguiste travaillant pour l'UNESCO ou quelconque institution universitaire.
Oh merde! Oh, c'est con ça!
C'est un auteur fantasque, ésotérique et révisionniste, dont les thèses servent de base à des contenus viraux sur TikTok, visant à réécrire l'histoire des langues sous un angle militant, mais sans aucun fondement scientifique ou académique. Ses travaux reposent sur une méthode d'étymologie comparative, qui consiste à établir des liens entre les langues africaines, particulièrement les langues bantoues comme le Kikongo, et des langues indo-européennes comme le latin. Ces rapprochements se basent sur des similitudes sonores perçues entre certains mots, une démarche unanimement rejetée par les linguistes.
Qu'est-ce que c'est que cette merde ?
Bref, ça commence fort, très fort.
Tu vois ?
Dans cette deuxième vidéo, il s'attaque aux grandes figures noires du château de Versailles.
J'aimerais vous montrer une chose qui m'interpelle, d'accord? Regardez, ils sont tous en empereur, dit romain. Si vous regardez, ils sont tous habillés comme ça, d'accord? Vous voyez, hein? On est d'accord. Mais maintenant, il y en a, regardez. Si vous regardez, ici, vous voyez comment il est? Regardez sa tête. La fleur, elle est blanche. Pourquoi si c'est un blanc, sa tête-là n'est pas blanche, là? Il faut m'expliquer. Ils savent faire le blanc, on est d'accord?
Je résume son propos. Puisqu'ils savaient faire des statues en blanc, pourquoi avoir représenté certains empereurs en noir? Moralité, on nous ment. Rome, c'était des Africains.
C'est pas possible d'être aussi con!
Encore une fois, vous vous doutez bien que c'est un tissu de mensonges. Déjà, si on suit sa logique racialiste, j'aimerais qu'il m'explique où ça existe des gens dont la couleur de peau est blanc plâtre. La raison pour laquelle certaines statues sont en marbre blanc et d'autres intègrent des parties noires n'a rien à voir avec la couleur de peau des sujets. C'est une tradition esthétique appelée la polychromie ou l'utilisation des marbres de couleur. Les sculpteurs des 17e et 18e siècles cherchaient à imiter les statues antiques qui, dans l'imaginaire des artistes, devaient être spectaculaires. Utiliser du marbre noir, souvent du marbre de Belgique ou de l'ardoise, combiné à du marbre blanc, le marbre de Carrare, permettait de créer des contrastes saisissants. Le noir dans la stature classique est très souvent utilisé pour symboliser la richesse, la gravité, ou tout simplement pour mettre en valeur le blanc du visage et des mains. Cela crée une profondeur visuelle que le marbre blanc seul ne permet pas. À la question « pourquoi ne pas tous les avoir faits en noir dans ce cas ?», la réponse est encore plus simple. Parce que les marbres de couleur étaient rares, extrêmement coûteux et très durs à travailler. Si on suivait la logique « si c'est noir, ça veut dire que le sujet était noir », alors on devrait en conclure qu'ils étaient aussi en bronze, peint ou en terre cuite. En réalité, beaucoup de ces statues sont des copies ou des réinterprétations de modèles antiques. Les sculpteurs ne cherchaient pas à représenter la réalité biologique des empereurs qu'ils ne connaissaient pas précisément, mais à créer des œuvres d'art pour décorer les jardins et les galeries. Bref, encore un gros mytho démonté en règle.
Encore!
Plus que 50 jours avant la Grande Guerre, je vous cache pas que c'est le live le plus difficile que je vais faire. Mais je pense qu'il est temps qu'on mette le football, le MMA et les vacances et tout ce qui nous distrait de côté. Écoutez le scénario qu'ils peuvent jouer dès septembre.
Ils annoncent que la Russie va tester l'OTAN en attaquant la Pologne sous faux drapeau ukrainien. Donc ils le savent déjà. Donc ça veut dire que possiblement, ils sont capables en septembre, à la rentrée à l'automne, d'attaquer la Pologne. Quand je dis « ils sont », je parle de l'Ukraine avec l'OTAN, avec le soutien de l'OTAN, bien sûr, puisqu'ils ont déjà annoncé le scénario.
Donc vous avez entendu. Et moi, je vais vous rajouter en fait que le 2 septembre, c'est une date clé pour les francs-maçons, les kabbalistes et autres. Leur partition se joue tous les 2 septembre, et je vais vous le démontrer. Je vais même pouvoir vous en dire l'origine. Et j'ajouterai durant ce live la vérité sur Hitler, sur les Waffen-SS, et sur le mensonge qu'ils ont construit pour faire défiler l'Ukraine le 14 juillet. Car ça encore, c'est un affront de la part de Macron. Il se fout de vous parce que vous ne connaissez pas votre propre histoire. Et il pense pouvoir s'en jouer, pour mettre la main sur l'Europe. Et vous verrez que le Maroc, et je ne parle pas des Marocains, je parle que des Alaouites, je vous montrerai leur place centrale dans ce qu'ils sont prêts à déclencher en Europe et en Afrique. Je vous dis donc à demain, lundi 13 juillet, à 20h. À bon entendeur.
Commençons par Philippot. Il est pas inintéressant politiquement parlant, mais bon. À force de nous parler de complot et de nous annoncer des catastrophes tous les 4 matins, j'ai cessé depuis longtemps de donner du crédit à ce mec. Mais je vais pas m'attarder sur son cas, ni creuser les articles qu'il mentionne, car ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Quoi qu'il en soit, s'appuyer sur une démonstration de Philippot pour appuyer son propos, c'est déjà une idée suspecte. De toute façon, la phrase de Philippot est ambiguë et on comprend pas trop où il veut en venir. Bref, revenons sur Charles Gallia qui enchaîne une salade de mots en guise de bande-annonce d'un live à venir. Ukraine, Russie, faux drapeau, Macron, 14 juillet, 2 septembre, franc-maçon, Alaouite, Hitler, drapeau marocain, etc. Je n'irai pas voir ce live, bien entendu. Je connais très bien ce genre de loustique et il va sauter d'un sujet à l'autre sans jamais apporter de preuve de quoi que ce soit. C'est une stratégie classique des turbo-complotistes. Te noyer sous une tonne de théories pour ne pas te laisser le temps de les vérifier une par une. L'objectif n'est pas d'apporter une information, mais de créer un sentiment d'appartenance. Nous, nous savons, les autres sont des moutons. Cette vidéo nous donne une idée encore plus précise sur le profil de ce Charles Gallia. Passons à une autre vidéo. Il se rend au château de Sceaux pour assister à une conférence donnée par Charles-Éloi Vial, historien conservateur reconnu de la Bibliothèque nationale de France et un spécialiste très sérieux du Premier Empire. Il interrompt la conférence de façon provocante et insolente, et on comprend pas trop, il voudrait parler de l'impératrice Eugénie, épouse de Napoléon III, morte en 1920, alors que la conférence porte sur l'impératrice Marie-Louise d'Autriche, épouse de Napoléon Ier et morte en 1847. On comprend pas trop ce qu'il essaie de faire, mais passons. Une dame de l'organisation, excédée par cette interruption insolente, lui demande alors quel est l'ouvrage qu'il tient dans les mains. Le livre qu'il brandit, sans preuve que ici c'est Gallia et non la France, d'un auteur obscur, Charles Pourlier, qui n'est autre que lui-même.
C'est dans le livre.
C'est dans le livre, voilà. Ah.
Puis il évoque un empire datant de 3000 ans qui aurait été détruit en 1946 par l'Amgoth, etc., etc. Je vais pas m'enfoncer dans ces théories complotistes, car c'est un sac de nœuds et un millefeuille argumentatif. Ce qu'il faut comprendre, c'est où il veut nous emmener. Pour ce profil de complotiste, le but n'est pas de faire de l'histoire, mais de réhabiliter une fierté identitaire à travers un récit mythologique. Vous vous rappelez l'exemple de la première vidéo ? Gallo, Gallia, Breton, Wolof, Sénégal, Bantou, Latin, etc. Vous avez déjà compris où tout ça nous mène. L'Égypte ancienne et les empires africains sont le socle de toute la civilisation européenne. Ils tentent de dire que les racines de l'Europe ne sont pas gréco-latines ou celtiques, mais africaines. C'est pour ça qu'ils s'acharnent sur les mots comme Gallia. Il veut prouver que le nom même de la France est africain dans son origine. Il nourrit le ressentiment et la division en faisant croire que toute l'histoire de l'Europe est une imposture montée contre l'Afrique. Il construit un monde parallèle où l'Afrique n'est pas seulement le berceau de l'humanité, ce qui est un fait scientifique, mais le créateur unique de tout ce qui compose l'Europe, en utilisant des mensonges étymologiques et historiques comme preuve. Ensuite, il débriefe et nous parle de Néapolio.
Donc là, je vous fais un débrief de ma rencontre avec Charles-Éloi Vial, d'accord ? Il se dit être historien bibliothécaire de la BNF. Il a écrit un livre épais comme ça, L'Empire des mots, que je vais appeler L'Empire des mythos. Sincèrement, il est bon à caler que les portes. Je lui ai proposé qu'on discute de Napoléon, Néapolio plus exactement. Je lui ai parlé de l'Empire de Gallia. Je lui ai dit que ça faisait partie de leurs archives. Je lui ai demandé s'il y avait possibilité de débattre. Il m'a mis une fin de non-recevoir pour tout. Mais c'est à cause de ces personnes-là, justement, qui acceptent de mentir sur notre histoire, que nous en sommes là où on en est aujourd'hui. Il m'a tout de même donné un bon conseil. Je vais me rapprocher de la fondation de Napoléon. Préparez-vous, parce que là, vous allez voir. Je vais leur tirer les vers du nez pour obtenir la vérité, à bon entendeur.
Encore une fois, le but de cette vidéo n'est pas de plonger dans les méandres des théories complotistes. Si vous avez du temps à perdre, faites-le de votre côté, mais moi je n'ai ni le temps ni l'envie.
Pas envie.
Je l'ai déjà fait par le passé et je me suis systématiquement rendu compte que ce sont des impasses et des sectes remplies de ravagés du cerveau qui cherchent un sens à leur vie. Ce qui m'intéresse, c'est la stratégie du bonhomme.
La stratégie.
Il n'est pas dans une démarche scientifique. Dans une démarche scientifique, on émet une hypothèse, on cherche des preuves, on confronte ses pairs et on accepte d'avoir tort. Lui, il a déjà décidé que la vérité officielle est un mensonge imposé et il cherche des preuves qui valident son intuition. C'est une spirale de confirmation. Je crois en Gallia et t'as vu, Gallia, Sénégal, les statues d'empereurs noirs, tout ça, tout ça. Donc l'Afrique est à l'origine de la création de l'Europe.
You are fake news.
Je cherche des signes partout et quand un historien, peu importe si c'est une sommité dans son domaine, me dit que c'est faux ou qu'il ne veut pas me recevoir, c'est un complotiste qui cache la vérité. C'est une boucle fermée. Personne, pas même les meilleurs spécialistes du monde, ne pourra le faire sortir de là, car pour lui, l'historien n'est plus une source de savoir, mais un ennemi. De plus, en décortiquant son discours, on retrouve plusieurs marqueurs typiques des théories antisémites, souvent dissimulés derrière un langage codé ou détourné. Quand il parle de l'élite, des francs-maçons, de l'imposture de 1946 avec l'Amgoth, ou de forces occultes qui manipulent l'histoire, il s'inscrit dans la tradition du complotisme conspirationniste global. Historiquement, ces récits sont les héritiers directs des théories du complot juif mondial, comme le faux manifeste des protocoles des sages de Sion. Même s'il remplace le mot juif par élite, kabbaliste ou franc-maçon, le mécanisme reste le même. L'idée qu'un groupe secret et malveillant tire les ficelles du monde depuis des siècles. En affirmant que la France est une fiction et que l'Empire est détruit, ils cherchent à délégitimer tout l'ordre social et politique actuel. Dans ce genre de discours, la cible n'est jamais loin. Il s'agit de désigner un ennemi qui aurait volé la patrie, l'identité ou l'histoire. C'est une rhétorique qui vise à créer une rupture et à désigner des boucs émissaires pour expliquer pourquoi nous en sommes là. Le profil de créateur comme Charles Gallia est caractéristique d'un phénomène bien plus vaste que la simple diffusion de contre-vérités historiques. Ce personnage incarne l'archétype du prophète de l'entre-soi. Sa méthode repose sur une autarcie intellectuelle totale. Il ne s'appuie pas sur le savoir académique, mais se rend lui-même sa propre source. En s'auto-éditant, il boucle un raisonnement circulaire où sa preuve devient son propre livre.
J'ai écrit 50 livres, t'en as écrit combien ?
Non mais je veux dire, tu peux écrire 50 livres de merde.
Sa stratégie d'interruption de conférence ne vise pas le débat, mais la mise en scène d'une prétendue persécution. transformant le silence naturel des experts en une preuve de culpabilité.
C'est une stratégie désespérée parce que malheureusement, il n'en a pas de meilleur.
Au-delà du personnage, c'est toute la grammaire du complotisme qui se révèle dans ses discours. En y ayant mis le nez par le passé, j'ai identifié ce qui constitue le pivot central de ses théories. Quelle que soit la porte d'entrée, l'histoire, la géopolitique ou les drames contemporains, on retombe inlassablement sur la même structure. Ces théories ne sont au fond que mille et une façons détournées de désigner le juif comme le poison originel et la cause unique des maux de l'humanité.
Qui ?
Pour eux, le 11 septembre, la pauvreté en Afrique, la falsification de l'histoire de l'Europe, l'immigration, etc. Cherchez pas, vous trouverez toujours le juif au bout de la chaîne. C'est cette obsession qui explique paradoxalement l'absence totale de la Chine ou du Japon dans ces récits. Le complotisme est un produit culturel occidental, centré sur ses propres mythes. Il est incapable d'intégrer des puissances comme la Chine, sans briser la cohérence de son narratif. Ignorer l'Asie est, pour le complotiste, le seul moyen d'éviter le paradoxe et de maintenir la fiction d'un complot mondial monolithique. Bon, après il y a Jean Robin, mais lui c'est un être à part. Un être de lumière qui flotte au-dessus de l'humanité depuis longtemps.
Toute l'oligarchie française médiatico-politique est dans la main de la Chine.
Il est néanmoins essentiel de ne pas faire de l'étiquette complotiste un anathème que l'on brandirait pour clore arbitrairement les débats ou discréditer toute forme de remise en question. Il existe une différence fondamentale de nature et non de degré entre les deux postures. Il y a la démarche de l'esprit critique qui consiste à ne pas tout prendre pour argent comptant, à exiger de la transparence et à analyser les zones d'ombre de faits complexes, comme ce fut le cas par exemple lors de l'affaire Alstom. Et il y a la démarche complotiste, qui est une forme d'enfermement idéologique. Elle ne cherche pas la vérité dans la complexité, mais le confort d'une explication unique et malveillante. Elle ne pose pas de questions pour comprendre, elle assène des réponses pour diviser. Sortir de ces nébuleuses, c'est accepter que le monde soit parfois plus chaotique qu'un scénario de complot préécrit. Mais c'est aussi, paradoxalement, retrouver une liberté de pensée réelle. Celle de pouvoir regarder le monde tel qu'il est, dans toute sa complexité, sans avoir besoin d'un bouc émissaire pour en supporter le poids.
Et puis un jour, j'ai appris que Jésus avant était juif au départ. Vous imaginez dans quel désarroi spiritique je me suis retrouvé. Et j'ai rencontré Skippy. Et depuis, j'ai découvert une totale liberté de pensée cosmique vers un nouvel âge réminiscent.
Je devais vous quitter là, mais finalement, j'ai envie de prendre un dernier exemple qui illustre bien son antisémitisme et ses techniques de manipulation. Regardez plutôt.
Jéhovah, Yahvé, Adonai, appelle-le comme tu veux, c'est le dieu des cannibales. Je te le démontre, ouvre ta Bible. Dans l'Ancien Testament, Deutéronome 20, 10, regardez ce qui est écrit. Écoutez bien, quand tu t'approcheras d'une ville pour l'attaquer, tu lui offriras la paix. Si elle accepte la paix et t'ouvre ses portes, tout le peuple qui s'y trouvera te sera tributaire et asservi. Si elle n'accepte pas la paix avec toi et qu'elle veuille te faire la guerre, alors tu l'assiégeras. Et après que l'Éternel, ton Dieu, l'aura livré entre tes mains, tu en feras passer tous les mâles au fil de l'épée. Mais tu prendras pour toi les femmes, les enfants, le bétail, tout ce qui sera dans la ville, tout son butin. Et tu mangeras les dépouilles de tes ennemis que l'Éternel, ton Dieu, t'aura livré. Vous avez entendu ? Tu mangeras les dépouilles de tes ennemis que l'Éternel, ton Dieu, t'aura livré. C'est ainsi que tu agiras à l'égard de toutes les villes qui sont très éloignées de toi et qui ne font point partie des villes de ces nations-ci. Mais dans les villes de ces peuples, dont l'Éternel, ton Dieu, te donne le pays pour héritage, tu ne laisseras la vie à rien de ceux qui respirent, car tu dévoueras ces peuples par interdit. Et après ça, vous vous demandez pourquoi est-ce qu'ils ont été expulsés de tous les pays. Voici ce que l'on retrouve dans la Bible hébraïque, dans la Bible des kabbalistes, talmudistes, satanistes.
Déjà, le titre fait fort. Jéhovah, dieu des élites cannibales, rien que ça.
Ça fait peur, non ?
J'ai beau savoir que l'Ancien Testament n'est pas plus un conte de fées que le Coran, mais je n'ai jamais entendu parler de cannibalisme dans ce dernier. C'est tellement gros que je pouvais pas laisser passer ça sans enquêter un minimum. Je suis donc allé lire ce fameux Deutéronome 20-10 sur bible.com. Tout comme pour les versets du Coran, il y a différentes traductions. Ici, nous avons 7 traductions différentes, et comme par hasard, il a choisi la seule traduction qui évoque la phrase qu'il cite. « Mais tu prendras pour toi les femmes, les enfants, le bétail, tout ce qui sera dans la ville, tout son butin, et tu mangeras les dépouilles de tes ennemis que l'Éternel, ton Dieu, t'aura livrées. »
Voilà, voilà.
Il s'agit de la traduction de Louis II en 1910. En revanche, les 6 autres parlent de manger les biens de ses ennemis. Le mot hébreu original, « shalal », signifie « butin de guerre ». Est-ce Louis II qui l'a mal traduit ? Eh bien, pas du tout. Dans l'esprit d'à peu près tout le monde, une dépouille est un cadavre. Sauf que voilà, le mot dépouille sert aussi à désigner les biens de toute nature laissés par un défunt. Est-ce une erreur de la part de Charles Gallia, Absolument pas, car d'une part, je peux pas croire que quelqu'un d'aussi curieux n'ait daigné chercher la définition de dépouille dans un dictionnaire, et ce n'est certainement pas un hasard qu'il ait choisi parmi les 7 traductions proposées la seule qui validait en apparence sa théorie du dieu cannibale.
En 2014, un chercheur du nom de Vincent Goudart a révélé une vérité choquante dans son livre. En fait, il a fouillé dans des archives et analysé les témoignages d'anciens esclaves pour découvrir un truc tout juste dégueulasse. Les corps des esclaves noirs étaient parfois mangés par les colons. Pendant longtemps, on a cru que les récits de cannibalisme étaient exagérés, mais en regardant les documents de plus près, on trouve des trucs flippants. Des esclaves racontent que la peau était utilisée pour fabriquer des chaussures et des sacs à main, que les cheveux servaient à rembourrer des matelas. Certains maîtres faisaient même manger aux esclaves des morceaux de leurs propres compagnons comme punition. L'histoire de Nat Turner, un esclave qui s'est rebellé en 1831, en est un exemple révélateur parce qu'après son exécution, sa chair a été transformée en graisse médicinale, c'est-à-dire à quel point cette folie allait loin.
Car oui, en effet, c'est bien eux qui ont mangé nos ancêtres. Imaginez-vous nos ancêtres face à des hordes de cannibales.
Et quid de l'ouvrage de 2014 de Vincent Woodard, The Delectable Negro, qui signifie le nègre délicieux, miam miam. Vous serez pas étonné si je vous disais que là encore, Charles Gallia nous l'a fait à l'envers.
Comme par hasard.
Ce livre n'est pas un livre d'histoire qui prouve que les Juifs ont pratiqué le cannibalisme physique sur les esclaves noirs. Woodard analyse la rhétorique et les métaphores utilisées dans les récits d'esclavage, la littérature abolitionniste et le discours pro-esclavagiste. Il étudie comment le concept de consommation, de travail, de corps et d'énergie était utilisé pour décrire la violence de l'esclavage. Charles Gallia prend une étude universitaire qui porte sur les représentations symboliques et imaginaires de l'esclavage et la transforme en un documentaire gore. Il transforme une analyse littéraire et culturelle en un manuel d'histoire criminelle. C'est une méthode malhonnête qui consiste à faire dire à un chercheur l'exact opposé de ce qu'il a écrit. L'esclavage transatlantique était une atrocité massive, documentée par des millions d'archives, des récits de vie, des registres comptables et des preuves archéologiques. Ce système n'avait pas besoin de cannibalisme pour être barbare. Ensuite, il utilise les travaux de cette historienne très controversée et souvent citée dans les milieux conspirationnistes pour ses thèses sur la Révolution française, Marion Sigaud, pour lier le sort des Vendéens à celui des esclaves.
On a vendu des vêtements en peau humaine, on a vendu des bottes en peau de Vendéen, on a vendu des vestes en peau de Vendéenne, on a vendu du savon en graisse de Vendéenne. Faut le savoir, ça quand même, faut le savoir. Et ça, c'est la République. La République qu'on nous vend, la Révolution française.
En juxtaposant les deux, il sous-entend que la République, qu'il assimile à l'entité maléfique qu'il a désignée juste avant, est intrinsèquement une force de mort qui traite les humains comme du bétail. En disant aux personnes noires et aux autres victimes potentielles que c'est bien eux qui ont mangé nos ancêtres, il crée un ennemi commun. Il ne cherche pas la vérité historique sur l'esclavage ou sur la Vendée, qui sont des sujets complexes et tragiques. Il cherche à fédérer par la haine. Il veut transformer le ressentiment de ses auditeurs en une colère dirigée contre une cible qu'il a préidentifiée. L'épisode des tanneries des peaux humaines à Meudon pendant la Terreur est un sujet historique qui a été débattu par les historiens. Certaines sources d'époque en parlent, mais la réalité factuelle et l'ampleur de ce phénomène sont très discutées, voire largement nuancées par les historiens contemporains. En accolant une polémique historique floue, la Vendée, à un mensonge pur et simple, le cannibalisme des esclaves, il a créé un amalgame qui vise à dire « Regardez, le système, la République ou les Juifs, a toujours été une machine à manger les gens. »
C'est ridiculous.
Mais alors pourquoi rajouter une couche d'horreur, le cannibalisme, sur des événements qui sont déjà en soi des tragédies atroces et documentées? La réponse tient en 3 points. Premier point, le complotiste veut absolument créer un ennemi absolu. Un acte de guerre, aussi barbare soit-il, comme les massacres de la Terreur en Vendée ou les atrocités de l'esclavage, reste un acte politique ou économique, aussi condamnable soit-il. En y ajoutant le cannibalisme, il fait basculer l'événement dans le sacrilège et le satanisme. L'objectif est de dire « Ce sont pas des humains comme nous, ce sont des créatures démoniaques. » Si vous dites « La République a massacré des Vendéens », vous discutez politique et histoire. Si vous dites « La République a mangé des Vendéens », vous créez un choc émotionnel brut qui court-circuite toute réflexion.
Monsieur cannibal, je ne veux pas mourir. Monsieur cannibal, laissez-moi partir.
Il veut susciter une répulsion physique chez son spectateur, pas une réflexion intellectuelle. Deuxième point, le besoin de l'exceptionnalisme du mal. Dans la tête du complotiste, le mal ordinaire n'existe pas. Il ne peut pas concevoir que des humains, poussés par l'idéologie, la peur ou la soif de pouvoir, puissent commettre des atrocités simples. Il lui faut une explication qui dépasse l'entendement humain.
C'est pas de Satan !
Le cannibalisme est le mal ultime dans presque toutes les cultures. En l'attribuant à ses ennemis, il s'assure qu'il soit placé hors de l'humanité. C'est une technique classique de diabolisation. On ne débat pas avec un démon, on l'extermine. C'est une manière très efficace de préparer les esprits à la violence. Troisième point, la création d'un miroir de souffrance. En accolant le cannibalisme aux esclaves noirs et aux Vendéens, il tente de créer une alliance des victimes sous son égide. Il dit en substance « Regardez, vous les Noirs et vous les Vendéens, vous avez été victimes de la même entité maléfique qui agit depuis des siècles. » C'est une stratégie de recrutement communautaire extrêmement cynique. Il utilise les traumatismes historiques de groupes très différents pour les amener à converger vers une cible commune, les Juifs slash la République. Il ne se soucie pas de la vérité historique des Vendéens ni de celle des esclaves. Il cherche des preuves d'horreur pour solidifier son récit. Enfin, dans la dernière séquence de sa vidéo, il nous montre un extrait où l'on voit le politicien Pierre Lelouch, entouré de mecs en kippa, donc j'imagine qu'il est sur un média juif, Lelouch étant juif lui-même. Vous allez comprendre la stratégie de Charles Gallia qui se révèle limpide. Il saute sans cesse d'un sujet à l'autre, dans le but de rallier le maximum de monde à sa cause. Avec les juifs qui mangent des esclaves, on a le cannibalisme pour rallier les noirs. Avec la République qui mange les Vendéens, on reste dans le cannibalisme, mais cette fois-ci pour rallier les blancs. Alors, qui manque-t-il ?
Je ne sais pas.
Eh bien, dans l'extrait, Lelouch égrène les horreurs commises sur les Vendéens par la République, et de façon générale sur les chrétiens, mais là on ne parle plus de cannibalisme. Ah ben voilà, là c'est pour rallier les chrétiens, mais les musulmans du coup. C'est chose faite quand Lelouch termine son discours par...
Aujourd'hui, on est confronté à un problème colossal d'islamisation de la France. J'attends de voir ce que la République est capable de faire.
Bingo, la boucle est bouclée.
Monsieur Mélenchon, on se sent plus en sécurité, nous les musulmans.
Vous n'avez aucune limite, aucune décence.
Qui sont les élites ? Que ce soit les élites païennes, que ce soit les élites hébraïques, que ce soit les élites islamiques ou même encore chrétiennes. Elles œuvrent toutes dans un même but.
Le mec est obsédé par les juifs dans toutes ses vidéos. Dans celle-ci, il a passé les 9 dixièmes de la vidéo à nous expliquer que le juif est cannibale et qu'il tire les ficelles de la République. Et là, il veut nous faire croire que son problème, c'est avec les élites, quelles qu'elles soient. Il nous prend vraiment pour des cons.
La prochaine fois, tu te fous de ma gueule. Tu prends une gifle dans ta tronche, toi.
Ce qu'il est en train de faire, c'est du damage control pour éviter les poursuites judiciaires. Bref, ce Charles Gallia n'est certes pas suivi par des centaines de milliers d'abonnés, que ce soit sur Instagram ou YouTube, mais bon, des charlatans comme lui, il y en a des milliers en France. Et c'est tellement fait grossièrement que j'ai vraiment du mal à croire que des gens puissent se faire avoir en 2026. À une époque où tout est vérifiable en quelques clics.
哦，当面的倒地！Oh my god！哇，战斗牛士很快进行了还击，
北开三度的这双方势均力敌。哎，这个飞踢要救了！哎，我感觉斗牛士的头，
他晕了，他晕了，
他晕了，
斗牛士受到重创。
哦，摇头晃脑中啊，
不会打，不会爆装备吧？
可能真的要吐了。
哦，
斗牛士还能坚持吗？
斗牛士他还在。
真的是太顽强了。